Nous allons lire la parole de Dieu telle que nous la trouvons dans la première épître de Jean, au chapitre 3, 1 Jean 3, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. 1 Jean 3, 11 à 18. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez que qu'un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. C'est Pascal Rodet, responsable du pôle éducation et jeunesse dans notre union, qui va nous parler de la part du Seigneur ce matin. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas.
Je ne m'attendais pas à une telle introduction. Heureux de passer cette journée de sabbat avec vous, ce moment de culte et d'adoration. À cette heure-ci, si tout s'est bien passé, notre président de la République a rallumé la flamme du soldat inconnu, a déposé une gerbe dessus, a remonté les Champs-Élysées et est en train d'assister au défilé militaire du 14 juillet. Ce défilé militaire existe depuis 1880 et c'est par cette cérémonie que débute cette journée du 14 juillet qui, pour tout Français, rappelle la Révolution. Alors, à tous les jeunes, désolés de vous renvoyer à votre mémoire d'histoire, où vous appréciez toujours autant ces dates et ces actions, je sais que vous êtes en vacances, pardonnez-moi. Mais on ne peut pas s'empêcher aujourd'hui, ça de tomber en plus le 14 juillet, d'en parler quand même. Qu'est-ce que c'est ? Ah, tout le monde le sait, en principe, c'est la prise de la Bastille. Mémoire incontournable de la mainmise des nobles sur le peuple. Symbole même de la force brutale des rois de France pendant des siècles. Et lorsqu'ils ont pris la Bastille, le symbole était tout à fait présent. Il y avait 7 prisonniers, tous de droit commun, aucun prisonnier politique. Mais c'est le symbole. En plus, une Bastille qui était gardée par 32 gardes suisses et 82 vieux soldats invalides. Contre des milliers de Parisiens qui en avaient ras-le-bol. Alors vous savez, à l'époque, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, il n'y a pas que la France, on fait mousser la chose. Très tôt, il a fallu trouver des symboles, une raison, et on voit dans les gravures des tas de coups de feu depuis les murailles du château, de la Bastille, avec d'énormes canons, etc., etc. Bref, cette journée du 14 juillet a été retenue pour un moment capital pour la France, qui, à partir de cette date-là, va cultiver du moins je le trouve dans ce sens, l'ambiguïté française. Vous savez que on parle souvent sur les terrains de foot de nos excellents joueurs français qui ont une voix extraordinaire pour parler de la pour chanter la Marseillaise. On repère tout de suite qui a chanté ou qui n'a pas chanté et on trouve scandaleux qu'il n'ait pas chanté la Marseillaise. Il y a 7 ans, lorsque nous sommes allés avec les Explos au Camporé, on nous a demandé, lors du lever du drapeau français, de chanter la Marseillaise. Parce que aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays, tous les jours, au lever du drapeau, dans les camporés, on chante l'hymne national. Donc ils trouvaient tout à fait logique que l'on chante l'hymne national. Alors on a eu 2 problèmes. D'abord, est-ce que les jeunes connaissent l'hymne national ? C'est le premier problème. Enfin, le problème a été vite réglé, la réponse a été non. Et la deuxième, est-ce qu'on peut chanter l'hymne national ? Et là, c'est un autre problème. Jusqu'à la dernière guerre mondiale, encore à la rigueur, on pourrait rentrer dans certaines paroles de l'hymne national. Mais nous qui sommes, selon les grands philosophes français, le peuple qui avons écrasé toute forme de pouvoir contrôlé par quelques hommes seulement, où nous nous targuons d'être ceux qui amenons la paix, où nous nous targuons aussi d'être ceux qui amenons une philosophie d'ouverture, de respect mutuel, où tous les hommes et les femmes sont égaux. Nous devrions chanter. Alors on connaît la première phrase. Hein. Allons aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats ? Ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors si ceux qui sortent d'ici n'ont pas leurs armes, là vous n'êtes pas bons du tout, hein, parce que il y a du boulot quand même. Pour moi, ça, c'est la première problématique de l'ambiguïté française. Arriver à être dans un courant humaniste, mais garder, parce que historiquement, c'est important pour notre histoire et notre culture, des paroles qui nous enclinent à chaque fois que l'on chante, à repérer quel est l'ennemi que nous devons combattre parce qu'ils envahissent notre pays. Deuxième ambiguïté. Le 14 juillet 1789 est un début de différentes dates importantes de la Révolution. Alors c'est vrai qu'il y avait de quoi. La noblesse était quand même, avait une part importante de la vie en France. C'est une France qui était à peu près de 26 millions d'habitants, c'est-à-dire la grandeur de l'Île-de-France et du Nord, Pas-de-Calais, étendue sur toute la France. Sur ces 26 millions, il y avait 144 000 nobles reconnus comme étant ceux qui pouvaient gouverner la France. Le reste était partagé entre les paysans, les ouvriers, qui n'avaient pas d'identité forcément, ils n'avaient pas de papier, ils n'avaient pas de reconnaissance nationale. Sachez que la carte d'identité a commencé en 1944, où tout le monde a été répertorié comme tel. Donc, aux actualités, vous savez, on entend toutes sortes de choses, il se passe telle chose dans tel quartier, on a tué un jeune, il s'appelait comme ça, on a enlevé un enfant, c'est terrible. À cette époque, on s'intéressait à ce qui se passait dans les 144 000 nobles, et ça s'arrêtait là. Il n'y avait plus de blé, plus de pain, le prix a été le plus haut depuis plusieurs siècles. C'est donc, en effet, dans une situation dramatique. Et dans cette situation dramatique, dans ce contrôle politique et religieux... je me suis trompé de chiffre, excusez-moi, c'est 400 000 nobles, c'est pas 144 000. Il doit y avoir un truc... petit mélange dans les chiffres... Je le dis parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont commencé à se dire « 144 000, comme dans l'Apocalypse !» Non, c'est 400 000 nobles et 120 000 personnes du clergé. Mais par contre, et en effet, les dates qui viennent par la suite vont créer un bouleversement dans la vie politique française. Et en particulier en 1798. Le directoire, ceux qui dirigeaient la France durant la Révolution, a mandaté Napoléon pour aller bouter les étrangers impurs, loin de France et de la République française, et en particulier en Italie. Et cette date-là, c'est l'arrestation du pape Pie VI, où il a été ramené en France, à Valence, pour mourir d'ailleurs un an plus tard. De fatigue, il était déjà vieux. Derrière, il y a forcément le symbole qui vient avec. Il y a deux grands symboles en France avec ça. Le livre « La tragédie des siècles » consacre un chapitre entier sur cette révolution française. Il est fort dommage d'ailleurs qu'on ne continue pas à y réfléchir pour aujourd'hui, parce que si ça s'arrête dans l'Apocalypse, nous on en subit encore les conséquences aujourd'hui de cette ambiguïté française. L'arrestation de ce pape a en effet, au travers de l'Apocalypse, mis un coup d'arrêt sur l'autorité papale. Cette autorité qui était pendant des siècles la seule voie d'autorité religieuse. C'est le religieux qui couronnait les rois, c'est les rois qui représentaient Dieu au milieu de son peuple. Cette autorité où seule les grandes doctrines pouvaient être acceptées ou refusées. D'où le fait du changement de jour du repos. D'où le fait de cette absolution faite par la possibilité par les prêtres. Cette nécessité de passer par les prêtres pour avoir le pardon, sans passer par Jésus directement. Et différentes autres choses qui tournent autour. Et ce qui permettait... face à un peuple qui ne savait pas lire ni écrire, contrôler pas mal de choses. Donc forcément, quand est arrivé 1789, que l'on a coupé la tête d'un roi, arrêté le pape, éliminé tous les prêtres, créé un nouveau dieu, le dieu de la raison, ça marque un pays. Parce que l'Apocalypse, si elle nous donne ces différents repères, pour nous, ça ne s'arrête pas là. Depuis ce temps, La France tangue un coup à l'anti-religieux, un coup à l'hyper-religieux, et on va et on vient. Un exemple assez important dans ce domaine, c'est par exemple la basilique Montmartre, qui a été construite en 1880, suite à un vote des députés français à l'Assemblée nationale, débloquant les fonds pour construire cette basilique. Et vous pouvez voir à l'entrée, à l'intérieur de la basilique, une stèle disant « Nous, députés, votons la construction pour le pardon des fautes de la France. » Quelques années plus tard, 1905, le gouvernement de l'époque décide la séparation de l'Église et de l'État. Et c'est à ce moment-là que tous les hôpitaux qui y avaient encore des infirmières religieuses ont été évacués du jour au lendemain, manu militari, évacuant tout l'aspect religieux des hôpitaux, des écoles, où dans certaines régions, vous savez, la France ne supporte pas quand on la maltraite un peu, sauf certaines régions où il y a eu des endroits très forts, Versailles, Bretagne, Lyon, des endroits où il ne faut pas toucher à l'école privée. Mais ça a été une période où on était anticlérical. Et il y a ce va-et-vient, et nous vivons ici dans ce tourbillon du va-et-vient, et quelque part, il est important de le comprendre, parce que quand nous arrivons et nous parlons de Dieu, nous parlons de quel Dieu ? De celui qui a opprimé la population française pendant des siècles ? Ou de celui qui peut aider, soutenir, apporter amour, grâce, salut. De celui qui n'a qu'une idée en tête, une religion, une pensée, ou de celui qui est à l'écoute des personnes, des gens, de la population qui ne sait plus où donner de la tête avec tout ça. Personne ne comprend quand on parle avec des Américains, des parfois même des Allemands ou d'autres peuples. Mais la France, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Avec leur laïcité, leur machin. Mais c'est ça la problématique. C'est pendant des années, on essaye de se trouver au milieu de cette idée religieuse. Alors quand on regarde un peu le risque, la situation religieuse qu'il y a eu pendant des siècles avant la Révolution, l'image de la société était un peu la suivante. Une société de privilèges, une société arrogante, une grande différence des statuts, une grande différence de richesse et le pouvoir absolu. Et c'est quelque part ce que tout le monde reproche à ce qui s'est passé pendant des siècles au travers de l'Église catholique. Mais quand je regarde toute religion a ce risque-là. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Luther, en Allemagne, face à la révolte des paysans, parce qu'eux voulaient garder leur foi et ne pas avoir été imposés par une nouvelle religion qui se dit protestante, à la question d'un des princes posé à Luther pour dire « qu'est-ce qu'on fait devant cette révolte ?» Il répond « tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » La France, elle, c'est le contraire. On a tué les protestants. Aujourd'hui, les risques sont les mêmes. Le risque de se dire « j'ai la vérité, la seule, la vraie, l'unique ». Le risque de dire « si tu ne suis pas comme je te le dis, tu es perdu, tu es rien ». Le risque de dire « moi je suis dans une église de vérité ». Lorsque je regarde la lettre de Laodicée dans l'Apocalypse, Dieu dit « je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. J'aime ce Dieu qui a toujours l'invitation qui nous est proposée. J'aime ce Dieu qui est là pour nous dire... Ne te prends pas pour quelqu'un auquel tu as tout ce qu'il faut. Dans ta religion, dans ta... un homme pur, imparfait. Ou inversement, ceux qui disent « non, non, mais ça, je n'ai pas besoin de me réformer, de changer, parce que j'aime bien vivre comme je vis ». Dieu dit « attention, danger ». Et lorsque je lis ce texte, c'est exactement ce qui s'est passé pendant des siècles. Mais ça n'a pas empêché de trouver des catholiques fervents. François d'Assise a été les plus fervents pour dire qu'il n'était pas normal que le clergé s'enrichisse sur le dos des fidèles et que l'Évangile, ce n'était pas ça. Et pourtant, il était accroché à sa prêtrise. Et je le respecte, parce que c'est un homme qui a su ouvrir les yeux à ceux qui ne voyaient plus dans quel état ils avaient mis la foi de Dieu. Il y a d'autres prêtres qui se sont aussi révoltés face à des situations injustes où ils ne comprenaient pas comment on pouvait parler d'un amour avec l'Évangile et en face de faire une opposition ou des injustices telles qu'il a pu y avoir. Ce n'est pas le titre d'une religion qui fait la vérité, c'est de savoir comment on la vit. Et c'est toute la problématique que nous avons aujourd'hui. Nous nous déchirons. Nous nous déchirons, et d'ailleurs c'est l'argument béton que les musulmans disent aux chrétiens. Quand on voit comment vous êtes, ah ben alors là on rigole bien, c'est pas de mal à veille qu'on va avoir quelque chose de concret. Alors vous allez me dire, inversement, on pourrait leur rétorquer, quand vous serez arrivés à vous entendre entre chiites et sunnites, on pourra reparler de ça. C'est vrai, eux aussi, ils ont leur division. Mais donc, toute religion à le risque de l'orgueil spirituel. Et mes amis, l'orgueil spirituel est, je crois, l'arme absolue de Satan pour éviter que ça avance. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous sommes passés avec une troisième ambiguïté française, qui, je crois, pour moi, est encore plus marquée que dans d'autres pays, du l'époque où le roi était la représentation unique d'une nation. Vrai, avec tous les éléments, nous sommes passés à chacun sa foi, chacun sa spiritualité, chacun ses devoirs, chacun ses obligations, chacun pour soi. Alors, j'ai bon espoir en la foi en un Dieu d'amour. J'aimerais terminer par un texte et par une histoire. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, versets 11 à 18, Dieu nous dit « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du Dieu que voyons et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Vous connaissez le conflit libano-israélien, qui, on n'en entend pas parler, mais régulièrement il y a toujours des problèmes entre le nord d'Israël et le sud du Liban. Et régulièrement, et dans l'histoire que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, un témoignage, il y a toute une ville, tout un village qui a dû partir. Il y a 4-5 ans maintenant, parce que les bombardements étaient tellement intenses qu'ils ne pouvaient plus rester. Et qu'ils faisaient partie de la branche chiite dans un milieu sunnite, à côté d'Israéliens. Donc je vous passe tous les détails, c'est assez tendu quand c'est comme ça. Et donc ils sont montés vers le nord du Liban, ils sont arrivés dans un autre village, sans rien. Ils ont pris, vous savez comment sont les guerres, ils ont pris ce qu'ils avaient. Ils ont été accueillis dans ce village. On leur a donné à manger, on leur a donné à boire, on leur a trouvé des endroits pour dormir, on leur a donné des affaires. Et les différents chefs de ce village, les différents responsables, ont accueilli avec joie ce cadeau qui nous est fait, mais ils avaient un problème. Ils ont été accueillis par des jeunes et par un prêtre. Alors les responsables chiites ont dit, écoutez, on vous remercie, mais pourquoi vous faites ça ? On n'est pas du tout de la même religion. On s'oppose, on a fait la guerre au Liban entre vous et nous. Comment, pourquoi vous faites ça ? Et le prêtre a dit, ce n'est pas de quelle religion de savoir d'où vous venez. Ce que je dois savoir, c'est que vous êtes humain, homme, femme, enfant, et que Jésus m'a demandé de pardonner, et que le pardon est plus fort que toute doctrine, et que mon devoir est de vous aider. Les chiites ont dit, vous savez, on nous a toujours appris que les chrétiens, on ne pouvait pas s'entendre avec eux, parce que c'est des gens bornés, qui ne pardonnent pas. C'est des gens qui restent toujours dans la même ligne. Et là, vous êtes en train de nous prouver le contraire. Après quelques semaines, quelques mois d'accueil comme cela, et que la guerre s'est calmée un peu dans le sud Liban, ils sont repartis dans leur village. Et les responsables chiites ont demandé aux prêtres, avant de partir, de participer à une de leurs cérémonies, cérémonie de Pentecôte, et avant de partir, de demander aux prêtres de les bénir. Bénir des chiites par un prêtre catholique. Ils sont repartis dans leur village. Ils ont reconstruit et ils ont demandé, quand tout était construit, s'ils pouvaient accueillir le prêtre avec quelques jeunes qui les ont aidés et encouragés. C'est ce qu'ils ont fait, ils sont allés dans ce village où il n'y avait que, cette fois-ci c'est le contraire, que des chiites, par rapport à quelques jeunes. Et les chiites ont demandé au prêtre, voilà, nous nous sommes vus avec plusieurs dans le village et on est tous dans le village et on est tous d'accord. Il faudrait que vous passiez dans toutes les maisons pour les bénir. On peut croire ou ne pas croire en la bénédiction d'un prêtre catholique. Ça, c'est pas mon problème. Chez nous, on bénit bien des voitures, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas reconnaître une bénédiction de ce type-là. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans cette histoire. C'est que c'est au travers de l'accueil de l'autre, dans ce qu'il est, là où il est, avec ses soucis, ses inquiétudes, ses problèmes, où ils ont été accueillis, reconnus comme êtres humains, où ils n'ont pas reçu de critiques, où on ne leur a pas bombardé d'idées ou d'histoires en disant « Vous, de toute façon, vous ne pouvez pas être sauvés parce que musulmans, ce n'est pas possible. » Mais bien un accueil sur la base du principe de pardon entre êtres humains, demandé par Dieu. Alors, peut-être qu'au travers de ce texte de Jean, de 1 Jean, chapitre 3, aimez vos frères, ça s'élargit un peu plus dans mon histoire, mais il y a au moins ce texte, aimez-vous les uns les autres, qui rentre bien dans cette histoire. Alors je pense que pour arriver à effacer 1789, à effacer des siècles d'intolérance, à effacer des siècles d'incompréhension de l'Évangile, notre devoir est bien de nous imprégner du Christ pour être à l'ouverture, à l'écoute des autres, à partager ma foi basée sur l'amour, l'écoute, le respect pour changer les cœurs. On ne change jamais un esprit dans une pensée intellectuelle si on n'a pas commencé par changer le cœur. Que le Seigneur nous accompagne. Amen.